Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est lundi, début de semaine, 11 juin 2018. Bienvenue à cette semaine qui est peut-être moins fébrile, étant donné que le G7, c'est derrière nous, malgré toutes les conséquences, on en reparlera. Et aussi la course Formule 1 Grand Prix, on en parlera aussi aujourd'hui dans cette revue de presse du lundi. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Êtes-vous allé manifester? Êtes-vous dans les gradins au Grand Prix?
Je n'étais pas au G7, je n'étais pas au Grand Prix. Je n'étais pas au Francofolie. Non, je suis resté bien sagement chez moi à profiter du beau temps.
Ah oui, c'est vrai qu'il a fait beau. Ça fait du bien, ça, des journées comme ça. Alors, mon cher, les éphémérides du 11 juin, on vous écoute.
Alors, en ce 11 juin, on se propulse dans l'histoire en 1638. À Québec, premier séisme observé au Canada par des Européens. Ensuite, 1770, un premier navire européen, l'Endeavour de James Cook, frappe la grande barrière de corail à l'est de l'Australie. Donc, on entend donc par là qu'il ne l'a pas frappé en faisant un accident, mais il a découvert la grande barrière de corail à l'est de l'Australie. 1895, un brevet est attribué aux frères Charles et Frank Duryea pour leur création de la première automobile à essence aux États-Unis. 1942, on reste aux États-Unis, les États-Unis concluent un prêt-bail avec l'Union soviétique pour aider l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie et le Japon. Toujours un 11 juin dans l'histoire, 1955, oui, la pire catastrophe de la course automobile survient aux 24 heures du Mans. Alors, on parle de trois bolides qui dérapent et qui revolent dans la foule, dans les gradins, tuant 82 personnes. 1962, trois hommes s'évadent d'Alcatraz, cette prison qu'on disait inviolable. Trois hommes réussissent à s'évader et l'histoire dit qu'ils ont possiblement péri dans la baie à San Francisco. 1982, sortie du film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. 1986, une synagogue est incendiée en Israël en riposte à des attaques d'intégristes contre des panneaux publicitaires jugés indécents. 11 juin 1996, à Miami, l'Avalanche du Colorado gagne la Coupe Stanley en balayant les Panthers en 4 matchs, créant la surprise. 1998, en France, une expertise à l'ADN conclut que l'acteur Yves Montand, décédé en 1991, donc 7 ans auparavant, n'est pas le père d'une femme née en 1975. La mère et la fille tentaient d'établir un lien de paternité. En 2001, en Indiana, Timothy McVeigh est exécuté par injection pour l'attentat à la bombe d'avril 1995 à Oklahoma City qui avait fait 169 morts. Puis, 11 juin 2009, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, annonce la première pandémie mondiale de grippe H1N1 depuis 41 ans, relevant son niveau d'alerte à l'échelon maximal, soit une alerte numéro 6. Les naissances en ce 11 juin, l'océanographe et cinéaste Jacques Cousteau, né en 1910, et 1864, le compositeur allemand Richard Strauss. Finalement, 11 juin 1979, c'est le décès de la grande vedette des films western d'une autre époque, John Wayne.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À la une de la presse, relation glaciale entre le Canada et les États-Unis à Boulet-Rouge sur Trudeau. On a une photo en gros plan de profil de Donald Trump dans la pénombre. Aussi, à propos du G7, les chroniques de Francis Vaille, le Québec contre l'Ontario ici, ça n'a pas nécessairement à voir avec le G7, mais celle d'Yves Boisvert, oui, le président Ponk. Grand Prix du Canada comme un hommage à Gilles Villeneuve. Ferrari s'offre la victoire à Montréal 40 ans après celle du pilote québécois. À Boulet-Rouge sur Trudeau, un vent glacial a continué de souffler sur les relations canado-américaines hier. Après les invectives lancées samedi par Donald Trump, de proches conseillers du président américain ont accusé Justin Trudeau de l'avoir poignardé dans le dos et ont promis au premier ministre une place spéciale en enfer. Jusqu'où ce froid sans précédent ira-t-il? Alors, froid dans les relations canado-américaines, ils ont dit Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne. C'est dur, c'est décevant cette fois-ci, mais ça n'est pas la fin du G7, a dit la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une entrevue avec la télévision publique allemande. Elle a qualifié la décision de Donald Trump de retirer son soutien par un tweet de dégrisante et un peu déprimante. Emmanuel Macron, président de la République française, à l'Élysée, on a martelé par voie de communiqué que la coopération internationale ne peut dépendre de colère ou de petits mots, tout en assurant que la France et l'Europe maintiennent leur soutien au communiqué final du G7. Nous avons passé 2 jours à voir un texte et des engagements. Nous nous y tenons et quiconque les quitterait le dos tourné montre son incohérence et son inconsistance, a aussi indiqué l'Élysée dans sa déclaration. Vladimir Poutine, président de la Russie, le président russe, a réagi en ironisant sur le babillage inventif des pays du G7, qu'il a invité à se tourner vers les sujets concrets relevant d'une vraie coopération. Et John McCain, sénateur de l'Arizona aux États-Unis, le sénateur de l'Arizona, s'est adressé aux Canadiens sur Twitter. « Les Américains sont solidaires avec vous, même si notre président ne l'est pas. » Et les médias du monde fustigent Trump, le désaveu sans précédent qu'a opposé Donald Trump au communiqué commun signé au terme du sommet du G7, a causé une véritable onde de choc mondiale qui a rapidement résonné dans les principaux médias des pays ayant participé à la rencontre. Et ce sont probablement les organes de presse américains qui ont servi les frondes les plus sévères au président. Dans un texte intitulé, traduction française, « Débâcle au Québec », le chroniqueur Paul Krugman du New York Times souligne que de tous les grands sommets internationaux, il n'y avait jamais eu de désastre comparable à celui de la Malbaie. Cela pourrait mener à une guerre commerciale, peut-être même à l'effondrement de l'Alliance en Occident, poursuit-il. À tout le moins, cela affaiblira-t-il la réputation des États-Unis d'être un allié fiable pour les décennies à venir? Exclusif à la presse Plus, coupe forestière Anticosti réclame un moratoire sur le champ. Anticosti réclame sans délai l'imposition d'un moratoire sur les coupes forestières prévues cet été sur le territoire et promet un soulèvement populaire si Québec refuse. L'abattage forestier des dernières années, selon la municipalité, affaiblit le cheptel de serre de Virginie, emblème de l'île, mais aussi la base de son activité économique. Ce coup-ci, ça ne marche pas, lance le maire John Pinault. « Si je fais un référendum dans le village pour savoir si les gens veulent que la coupe de bois continue comme ça, je vous garantis que 95% de ma population dit non », a-t-il assuré en entrevue avant son départ pour Québec, où il doit rencontrer aujourd'hui le ministre Luc Blanchet. Les policiers veulent des stationnements protégés. La Fraternité des policiers de Montréal réclame des stationnements sécurisés autour des postes de quartier, craignant que des agents soient agressés en arrivant ou en quittant le travail. En décembre dernier, un policier de Winnipeg qui venait de terminer son quart de travail a été poignardé en se rendant à son véhicule garé près de son poste. Puis en janvier, un autre agent en civil qui retournait à sa voiture a fait l'objet d'une tentative de vol. Ces deux événements ont relancé le débat sur la sécurisation des stationnements autour des postes de police. Contrairement à la sécurité du Québec, où la majorité des stationnements sont clôturés, ceux des postes de quartier de Montréal n'offrent pas une telle protection. La CNESST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, a toutefois rejeté la demande, aucun incident n'étant survenu au cours des 5 dernières années. Il nous est impossible de faire un lien entre l'aménagement actuel des stationnements et la sécurité des policiers en civil, car il n'y a eu aucune agression physique documentée envers ces policiers depuis 2013, peut-on lire dans une décision datée de mars obtenue par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Montréal n'est pas la seule ville où les policiers réclament des stationnements sécurisés. Outre leurs collègues de Winnipeg, ceux de Calgary, Vancouver et Victoria ont aussi demandé de telles mesures. Il y a eu plusieurs incidents où des agents ont été suivis et leur information personnelle a été obtenue grâce à leur plaque d'immatriculation, a dit Tom Stamatakis, président de l'Association canadienne des policiers. Grève des CPE, des progrès dans les négociations. Plusieurs clauses de la Convention collective des travailleuses des centres de la petite enfance de Montréal et de Laval ont été réglées en négociation hier, a annoncé l'Association patronale nationale des CPE hier soir. La grève est toutefois maintenue au moins aujourd'hui. Le conciliateur nommé par le ministre du Travail a convoqué les deux parties, soit l'Association et le syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval, à une nouvelle séance de négociation aujourd'hui. Les quelques 1350 travailleuses de 57 CPE, sans convention collective depuis mars 2015, sont en grève générale illimitée depuis mercredi dernier. Plus de 3000 enfants sont touchés par le conflit. Les négociations se tiennent depuis le 1er juin dernier. Royaume-Uni, des milliers de femmes habillées aux couleurs des suffragettes ont défilé hier aux quatre coins du Royaume-Uni pour marquer le 100e anniversaire du droit de vote des femmes britanniques. À Londres, Belfast, Édimbourg et Cardiff, les participantes se sont parées de vert, de blanc ou de violette, les couleurs des suffragettes, pour défiler dans la bonne humeur, portant parfois des vêtements inspirés du début du 20e siècle. Les suffragettes ont joué un rôle déterminant dans l'obtention il y a 100 ans du droit de vote des femmes britanniques, à une époque où leurs semblables avaient peu de droits et ne jouaient aucun rôle sur la scène politique. Un mystérieux incendie a ravagé hier à Bagdad un dépôt où se trouvaient des bulletins de vote des législatives du 12 mai. Mais des responsables ont assuré qu'il n'avait pas brûlé alors qu'un nouveau décompte des voix est prévu. Après plusieurs heures, l'incendie qui s'est déclaré dans le dépôt des... Après plusieurs heures, l'incendie qui s'est déclaré dans le dépôt des bulletins de vote de la plus grande circonscription d'Irak a été maîtrisé dans la soirée. À la suite du scrutin de mai, les tractations gouvernementales ont débuté entre les vainqueurs, le leader nationaliste Moqtada Sadr en tête, mais les tentatives de faire annuler le vote sur fond de suspicion de fraude n'ont pas cessé. Le Parlement est finalement parvenu mercredi à obtenir qu'un nouveau décompte manuel, cette fois, ait lieu. Et l'éditorial d'Alexandre Sirois... Pas au complet parce qu'il me reste moins d'une minute. Ainsi, Donald Trump a lâché ses chiens et l'éditorial se nomme « Ce n'est pas un ami et il ne nous veut pas de bien ». Ce n'était donc pas assez de désavouer l'accord du G7 après l'avoir signé. Pas assez non plus de qualifier le premier ministre du Canada de très malhonnête et faible. Hier, deux des conseillers du président Trump ont attaqué le Canada et son premier ministre comme des chiens enragés. Ils ont accusé Justin Trudeau d'avoir poignardé Donald Trump dans le dos. Lors de la conférence de presse finale du sommet du G7, le premier ministre a pourtant simplement répété qu'il juge insultant les tarifs imposés par la Maison-Blanche sur l'acier et l'aluminium du Canada au nom de la sécurité nationale. L'un de ses conseillers, Peter Navarro, a dit qu'il y a un endroit particulier en enfer pour les dirigeants qui agissent comme Justin Trudeau. C'est carrément odieux. Il a ensuite joué les vierges offensées. Donald Trump a fait une faveur à Justin Trudeau en acceptant de se rendre au Québec alors qu'il avait des choses plus importantes à faire, a soutenu le conseiller. Il a ajouté que le président américain était même prêt à signer le communiqué socialiste du G7. Socialiste! On nage vraiment en plein délire.
Chandail de laine au cœur de l'armée du salut, on sortit clair, on veut se plaire. Et on se pique, on se provoque, on s'éternise, on s'empoisonne de scorpions en manque de forme. Tu dis que je veux jamais jouer, dis-moi pourquoi tu me fais pas rire. C'est jamais doux, jamais doux, plus que deux secondes. Comme un chandail de laine, tu m'irrites et tu m'énerves, tu me réconfortes et ça m'enrage. Dis-moi pourquoi je suis pas fine, qu'avec toi que je suis comme ça, je veux toujours tester l'amour. Pourquoi mon mieux te suffit pas? Pourquoi ton pire me garde là? Tu boules la mythe et tu boules shit, tu me réchauffes pas et tu t'en vas vite. Je veux tellement, 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 tellement que tu me fasses pas mal. Tu veux tellement, 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 tellement que je te fasse du bien. Qu'au bout du compte, tout ce qu'on se fait, qu'au bout du compte, tout ce qu'on se fait, c'est jamais.
Deux secondes, c'est le titre de ce nouvel extrait de Marjolaine Moras, Deux secondes, de son album Chansons de laine.
La une du Devoir, Vettel honore Ferrari au Grand Prix. Alors, on voit l'Allemand Sébastien Vettel qui a remporté dimanche le Grand Prix du Canada. Septième manche de la saison de F1, cette victoire survient 40 ans après la victoire à Montréal de son illustre prédécesseur chez Ferrari. Gilles Villeneuve et Vettel embrassent son trophée, comme l'a fait Ovechkin quand il a reçu la Coupe Stanley. Sommet du G7, la méthode Trump ne meut pas Ottawa et ses alliés. Franco Margeau, l'indétrônable reine du rock vrai. Pour la première fois depuis 2011, la chanteuse présente un spectacle en tête d'affiche. Dominique Tardif l'a rencontrée. Sur la route, trop peu trop tard pour le projet de SRB sur le boulevard Pie-Neuf, point d'interrogation. Société, le plastique s'est hissé au sommet des menaces en l'environnement. Le remplacer, oui, mais par quoi? Le coup d'éclat de Donald Trump sera resté sans réponse. Les autres leaders du G7 ont choisi dimanche de ne pas répliquer directement au président américain qui avait la veille claqué la porte du sommet de la Malbaie en reniant son appui à la déclaration finale pourtant donnée quelques heures plus tôt. Ainsi, les quelques réponses au gazouillis du président sont plutôt venues des porte-paroles des six autres chefs d'État ou du gouvernement. La coopération internationale ne peut dépendre de colère ou de petits mots. « Soyons sérieux et dignes de nos peuples », a indiqué un porte-parole de l'Élysée, ajoutant que des engagements avaient été pris à la Malbaie. Quiconque les quitterait le dos tourné montre son incohérence et son inconsistance. De la même manière, un porte-parole de la chancelière allemande, Angela Merkel, a fait valoir que Berlin s'en tenait au communiqué commun. Le Japon, la Grande-Bretagne et l'Italie n'avaient pas réagi dimanche après-midi. Du côté canadien, la réplique venue samedi soir provenait du porte-parole du premier ministre plutôt que de Justin Trudeau lui-même. Le premier ministre n'a rien dit qu'il n'avait pas déjà dit auparavant, autant publiquement qu'en conversation privée avec le président, a écrit sur Twitter Cameron Ahmad. Dans l'entourage de M. Trudeau, on semble résigné à gérer l'imprévisibilité du président américain. Le pendule passe d'un extrême à l'autre à une vitesse effarante, constate-t-on, en rappelant que, malgré les gazouillis belliqueux du président avant le sommet, celui-ci s'était montré très avenant dans les rencontres. Cette source explique que le président est toujours poli en personne et que c'est ensuite par personne interposée ou par Twitter qu'il communique ses critiques. C'est la méthode Trump. $2 million pour fermer des puits pétroliers sur Anticosti. La facture assumée par l'État québécois dans la saga Anticosti gonfle encore un peu, a appris Le Devoir. Le gouvernement devra financer les travaux de fermeture de 2 puits forés par des entreprises privées bien avant le projet hydrocarbures Anticosti, une opération qui coûtera au moins $2 millions. Dans la foulée de l'abandon du projet d'exploration pétrolière hydrocarbures Anticosti, financé en majorité par des fonds publics, le gouvernement a accepté de prendre en charge des puits forés au fil des ans sur l'île. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles prévoit donc de dépenser cet été plus de $2 millions pour la fermeture définitive de 2 puits situés dans l'est de l'île. Ceux-ci ont été forés en 2010 dans le cadre d'un partenariat entre Corridor Ressources et Petrolia. La profondeur de ces puits dépasse les 1000 mètres, mais aucune autre information n'est disponible publiquement sur l'état de ces puits. Le montant dépensé dans l'aventure hydrocarbures Anticosti représente 3 fois la somme jugée nécessaire par la municipalité de l'île d'Anticosti pour mettre en œuvre son plan de développement stratégique, en incluant le projet de traversier qui permettrait d'améliorer substantiellement l'accès à la plus grande île du Québec. Le maire John Pinault évalue en effet les besoins à environ 30 millions. Les autorités révèlent que le déversement de pétrole brut causé par une fuite de l'oléoduc Trans Mountain il y a 2 semaines était 48 fois plus important que ce qui avait initialement été rapporté. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique indique que le volume de pétrole qui s'est écoulé dans la nature d'après les relevés de la station d'Arfield en date du 27 mai s'élève à 4800 litres. Au moment de l'annonce de la fuite, le ministère avait avancé un volume de 100 litres seulement. 2 jours après la fuite, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonçait que le gouvernement achetait l'oléoduc et tous les actifs de base de Kinder Morgan pour $4.5 milliards. Ricardo, jusque dans les cafétérias d'école, une publicité cause un malaise dans une école de Longueuil. Des affiches faisant la promotion d'une journée Ricardo, où des plats du chef cuisinier sont au menu de la cafétéria, ont causé un certain malaise dans une école secondaire de Longueuil. Des enseignants se sont dit étonnés de voir qu'on y faisait la part belle à ces recettes et possiblement de la publicité gratuite pour l'homme d'affaires. Aucune entente n'a été conclue avec ce traiteur, ni l'école, assure-t-on. D'emblée, on sait que des garderies et des écoles utilisent les recettes de Ricardo et on n'a aucun problème avec ça. On est bien heureux et flattés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un crédit qui est accordé à la marque Ricardo, explique Nathalie Carbonneau, responsable des communications et du marketing. Souvent, on n'est pas au courant quand les écoles reprennent nos recettes. Ricardo Media ne souhaiterait toutefois pas voir la photo du chef ou son logo repris pour le privilège d'une entreprise privée. Qu'on utilise nos recettes pour nourrir les jeunes, aucun problème, mais qu'ils en fassent la promotion sur leur site, c'est autre chose. La commission scolaire Marie-Victorin dit avoir donné son approbation au projet. Mais hormis les affiches, aucune autre promotion de ces journées n'a été faite, a indiqué Annie Massicotte, porte-parole de la CSMV, commission scolaire Marie-Victorin. Depuis 2013, les journées thématiques Ricardo ont lieu 8 fois par année. Dans les 9 écoles où LSA gère la cafétéria de même qu'auprès de ses clients d'entreprise. L'entreprise fait sa propre promotion de l'événement en posant des affiches et fait tirer des cadeaux parmi ceux qui s'abonnent à son infolettre. On a accès au rabais d'entreprise de Ricardo et ça nous permet de faire un clin d'œil à notre clientèle et à nos usagers, dit Julie Laberge, cofondatrice et dirigeante avec sa sœur de l'entreprise qui a 16 ans d'existence. LSA signifie Laberge Service Alimentaire. La loi sur la protection du consommateur interdit la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans. Une publicité risque davantage d'être considérée comme s'adressant aux enfants si un ou plusieurs de ces critères s'appliquent, rappelle Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, à savoir si le bien ou le service peut les intéresser, si la conception de la publicité est enfantine et si le lieu ou le moyen de diffusion contribue à rejoindre les enfants. Dans le cas d'une école, il est clair que le lieu de diffusion vise les enfants, mais il reste à déterminer si le message vise les enfants, dit M. Tanguay. Dans le cas dont il est ici question, l'OPC ne peut se prononcer sans avoir mené une enquête en bonne et due forme, explique-t-il. Le procureur public égyptien a annoncé dans un communiqué dimanche avoir renvoyé devant un tribunal spécial 28 personnes accusées d'avoir formé un groupe en vue de renverser le régime. Les suspects, dont 9 sont détenus, sont poursuivis pour avoir créé le Conseil égyptien pour le changement, une organisation considérée comme illégale d'après le procureur. Ce groupe est accusé d'avoir voulu porter atteinte à la Constitution, aux lois et à l'unité nationale, ainsi que, entre autres, d'avoir diffusé de fausses nouvelles en Égypte et à l'étranger dans l'intention de nuire aux intérêts nationaux et économiques du pays. Et quelques 175 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé dimanche à une chaîne humaine de 202 km à travers le Pays basque espagnol pour revendiquer le droit à l'autodétermination de la région. La chaîne de manifestants brandissant des drapeaux basques rouges à croix blanches et vertes a relié les villes de Saint-Sébastien et Vitoria, la capitale administrative régionale, en passant par Bilbao, la métropole économique.
Pareil.
On vient d'entendre la nouveauté de Danny Placard de son album Full Face. C'était la pièce C'est fucké pareil. Danny Placard qui sera entre autres en spectacle au Francofolie samedi le 16 juin prochain sur la scène Loto-Québec.
À la une du Journal de Montréal, devinez qui est là. Oui, Trump s'acharne sur Trudeau. Après l'échec du G7, le président américain et sa bande multiplient les insultes, le choc des idées fou et lâche. C'est la chronique de Loïc Tassé. L'écureuil sur l'espresso, Richard Martineau. Toxicité populaire, Lise Ravary. Et sauvée par les femmes, Fatima Houda Pépin. "14 pages sur la F1, un tour de piste émotif", la chronique de Jacques Villeneuve, et Vettel, champion à Montréal, Ferrari ravit ses fans. La chronique de Loïc Tassé, "Trump est fou, c'est un malade mental qui dirige le pays le plus puissant de la planète. En pratiquement 24 heures, il a réussi à changer 3 fois d'opinion sur le sommet du G7. Il l'a condamné, puis encensé, puis condamné à nouveau. En plus, Trump n'a pas eu le courage d'affronter en face les autres dirigeants du G7. Il a préféré les insulter à distance. Trump est un fou et un lâche. Comme il fallait s'y attendre, Justin Trudeau a servi de paratonnerre à la colère de Trump. La réaction irrationnelle de Trump était facile à prévoir. Trudeau ne doit pas être blâmé. En tant que président du G7 de cette année, il s'est, pour ainsi dire, sacrifié pour tenter de faire passer un message aux Américains. Pour le reste, il devient de plus en plus difficile d'appliquer une logique cohérente aux actions de Trump. Comme il est malade, il ne suit pas les raisonnements des analystes, fonctionnaires ou chefs d'État. La supposée logique de ses actions est toujours reconstituée après coup, dans de tortueuses explications qui n'ont aucune rationalité véritable. Bien sûr, puisque Trump est malade et qu'il délire. Combien de temps faudra-t-il aux Américains pour saisir que leur président est malade? Probablement encore assez longtemps, à moins qu'il ne fasse un geste spectaculairement fou, comme se présenter tout nu à une conférence de presse. Et encore, des fidèles l'excuseraient ou tenteraient de rationaliser son geste. C'est pourtant l'équivalent d'un tel geste que Trump commet presque tous les jours en politique internationale ou intérieure. Hier, un communiqué de l'Élysée expliquait que Trump était inconsistant et incohérent. En termes diplomatiques, cela revient à dire que le président des États-Unis est un fou. Aux États-Unis, plus de 70 000 spécialistes en santé mentale pensent la même chose. Ces spécialistes ont signé une pétition où ils affirment que Trump présente les symptômes d'une maladie mentale grave et où ils demandent qu'il soit écarté du pouvoir. Demain, Trump va rencontrer Kim Jong-un, un homme dont la santé d'esprit est discutable. Deux fous à un sommet historique. Comment diable en sommes-nous arrivés à cet extrême? La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, doit quitter ses fonctions aujourd'hui, telle qu'elle l'a annoncé lundi dernier, après n'avoir obtenu que 32 % d'appui parmi les membres du parti. Vendredi, Mme Ouellet a participé à sa dernière réunion du Bureau national du Bloc. Dans un communiqué hier, le parti a souligné que tous les membres du Bureau national et les 5 députés de la formation participant à la réunion lui ont rendu un vibrant hommage et des remerciements unanimes pour sa vision et ses réalisations multiples accomplies à travers la période difficile que le Bloc a traversée. Les députés Michel Boudrias et Simon Marcil, qui avaient quitté le Bloc avec 5 autres démissionnaires plus tôt cette année et qui avaient annoncé leur retour après l'annonce de la démission de Martine Ouellet, étaient donc présents à la réunion du Bureau national vendredi. La SAAC change d'approche auprès des motocyclistes, au moins 5 décès répertoriés sur les routes depuis la mi-mai. La vitesse excessive pourrait être en cause dans deux accidents de moto graves, dont un mortel survenu ce week-end malgré les efforts des autorités en ce début de saison pour freiner les ardeurs des motocyclistes. En roulant seulement 10 ou 15 km à l'heure au-dessus de la limite permise, on a un moins grand temps de réaction. Il faut se souvenir qu'une moto, c'est vulnérable, rappelle le porte-parole Gino Desrosiers. Malgré les campagnes de sensibilisation, le bilan routier des motocyclistes est lourd, avec une moyenne de 48 décès par été au cours des 5 dernières années, selon les données de la SAAC. Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés hier à Singapour à 2 jours d'un sommet très attendu, le premier dans l'histoire entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur des discussions dont l'issue s'annonce incertaine après des décennies de tensions entre les deux pays. Possible résultat concret évoqué par Washington, un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée. La guerre de 1950-1953 avait en effet été conclue avec un armistice et non par un traité de paix. Nord et Sud sont donc techniquement toujours en guerre. Un chien policier sur la piste de malfaiteurs s'est trompé de cible en mordant une fillette de 8 ans à Saskatoon, en Saskatchewan, samedi. À la poursuite de 2 hommes qui avaient commis une violation de domicile, le chien a attaqué l'enfant après avoir tourné le coin d'un immeuble. L'incident est survenu vers 17 heures, heure locale. La police de Saskatoon a expliqué que l'animal portait un harnais et était en laisse. Le chien a libéré la fille immédiatement à la demande de son maître, a-t-elle mentionné par communiqué hier. Le pistage des suspects a alors pris fin sur le champ. La fillette blessée a été transportée à l'hôpital pour être soignée. Sa vie n'était toutefois pas en danger. La police devait mener une enquête pour comprendre pourquoi le chien s'est rué sur l'enfant. Interminable identification des victimes au Guatemala. Dans une morgue improvisée à Escuintla, des dizaines de personnes errent photo en main dans une quête angoissée pour retrouver et enterrer les corps de leurs proches foudroyés par l'éruption du volcan de feu il y a une semaine au Guatemala. Ce ne sont pas des animaux, mais des personnes, lance Boris Rodriguez, 24 ans, qui est parvenu à arracher les corps de 10 membres de sa famille à l'avalanche de cendres et de roches incandescentes qui a dévasté San Miguel Los Lotes. Comme lui, nombreuses sont les familles qui attendent désespérément ici de pouvoir veiller et inhumer leurs morts. Et elles commencent à perdre patience devant l'interminable travail d'identification mené par les autorités. Le processus est lent et difficile entre la recherche minutieuse de traces d'ADN et les entretiens à mener avec les familles. Sur les 110 corps recueillis à la morgue, seuls 41 ont pu être identifiés selon l'Institut national de médecine légale. Autre reproche aux autorités, beaucoup pensent ici que la tragédie aurait pu être évitée si la protection civile avait lancé l'alerte et évacué à temps la population, ajoute Enma Pamal, qui a appris la catastrophe alors qu'elle se trouvait à des milliers de kilomètres du Guatemala. Et l'euthabag attire l'attention. Les animaux de compagnie qui sont euthanasiés par les vétérinaires finissent souvent dans des sacs poubelles. La docteure Céline Lehurteux, a créé une housse mortuaire permettant de disposer de façon plus respectueuse des corps. L'euthabag est le nom du produit commercialisé par l'entreprise Solution Vetchetera, mis sur pied par Mme Lehurteux en 2015. « Je n'en pouvais plus d'être incohérente dans le processus de soins. D'un côté, j'offre plein de petites attentions à mes clients pour les aider à surmonter cette épreuve, et de l'autre, je me sentais mal de mettre leur animal dans un sac poubelle. J'ai cherché des options, mais je n'ai rien trouvé », a expliqué la professionnelle. Portée par sa volonté de créer un produit innovant, elle a dû attendre environ 4 ans avant le lancement du premier « Eutabag ». L'arrivée des investisseurs Serge Beauchemin et Christiane Germain de l'émission Dans l'œil du dragon va permettre d'accélérer le développement de nouveaux marchés à l'international, Le tabac est déjà exporté aux États-Unis, au Panama, en Israël et en France.
La lune était en capricorne et le ciel était noir cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. On a pris l'urne par les cornes et sans regarder en arrière, j'ai posé dans la salicorne les cendres de mon père. T'aurais jamais dû partir, j'aurais dû te retenir, Maya. On s'était entendu. Pas de cris, pas de pleurs, personne part avant l'heure, Maya. Pourquoi l'avoir rompu? Le pacte de sang qu'on a signé adolescent, tous pour eux et droit devant. Sans toi, sans diogène, plus d'air, plus d'oxygène, Maya. C'est plus comme avant. Pourquoi tu viens?
Nouveauté de Lydia Kepinski, oui, c'était la pièce Maya, vous l'avez peut-être reconnue au nombre de fois qu'elle le dit dans la chanson. Lydia Kepinski qui est en spectacle aujourd'hui dans le cadre des Francopholies, c'est gratuit, c'est à l'Astral, c'est à 15h et elle est en spectacle avec Hubert Lenoir et Émile Bilodeau.
«
Les journaux régionaux, c'est à la une du droit. Quartier du musée, les résidents mettent de l'eau dans leur vin. Alors, on y va avec cet article signé Mathieu Bélanger. Conscient qu'un compromis est devenu nécessaire pour réunir une majorité d'élus derrière le projet de citation patrimoniale du quartier du musée, les résidents du secteur ont convenu de mettre un peu d'eau dans leur vin en proposant une modification du périmètre qui serait éventuellement protégé. Le droit a appris que les résidents du quartier, appuyés par le conseiller du district Hall Wright, Cédric Tessier, présenteront ce lundi soir en ouverture de la séance spéciale du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, sur la citation patrimoniale, le seul compromis faisable à leurs yeux dans ce dossier. La représentante des résidents du quartier, Marie-Josée Marzigliano, proposera de retirer le terrain du 115 rue Champlain du périmètre de protection. Il s'agit de l'Académie Sainte-Marie et du vaste stationnement de surface situé en façade de l'immeuble qui appartient à l'homme d'affaires Nader Dormani. Dans le meilleur des mondes, il n'y aurait pas de compromis. Mais ce terrain est situé au bout du périmètre et c'est le seul dans tout le quartier dont le plan d'urbanisme et le zonage permettent la construction d'un immeuble pouvant atteindre jusqu'à 10 étages, a noté M. Tessier. De le retirer du périmètre permettra plus de souplesse pour redévelopper ce stationnement. Le bâtiment de l'Académie Sainte-Marie serait toutefois visé par une citation patrimoniale. Lors du débat au Conseil le 8 mai dernier, certains conseillers se sont dit ouverts à la protection du quartier du musée, dans la mesure où les terrains de la rue Laurier appartenant à Brigil ou Brigil puissent être retirés du périmètre de citation. Madame Marzigliano et M. Tessier précisent toutefois qu'il n'y a aucune volonté de compromis de leur part pour les terrains de la rue Laurier. Quand Brigil a acheté ces terrains, il savait que le zonage ne permettait que 3 étages, rappelle M. Tessier. Dans le cas de M. Dormani, c'est différent. Il savait qu'il mettait la main sur un terrain qui permet une construction de 10 étages. Le quartier du musée est petit. La rue Laurier est déjà au cœur de ce quartier. Le compromis que nous faisons pour le 115 rue Champlain est le seul compromis possible sans mettre à risque l'intégrité patrimoniale du quartier. Je n'en reviens tout simplement pas, c'est dans le Nouvelliste, l'article de Catherine Bergeron. C'est grâce à un signalement anonyme qu'Anne-Sophie Provencher, une jeune femme de Trois-Rivières atteinte de paralysie cérébrale, a pu retrouver son vélo adapté. « Je n'en reviens tout simplement pas, c'est incroyable, nous l'avons retrouvé », lance André Lamy, la belle-mère d'Anne-Sophie Provencher. Madame Lamy ajoute qu'Anne-Sophie était vraiment contente. Pour elle, ce vélo est vraiment important. Elle utilise ce vélo depuis une dizaine d'années. Il est adapté à sa condition et il a subi plusieurs modifications. Nous ne savions pas quand elle pourrait en avoir un autre. Mais maintenant que nous l'avons retrouvé, elle est ravie, souligne-t-elle. En effet, c'est à la suite d'une information anonyme que les policiers de Trois-Rivières ont retrouvé le vélo de la jeune femme de 24 ans. Nous avons reçu des informations anonymes, nous avons retrouvé le vélo, mais l'enquête va tout de même se poursuivre afin de relier le vol à un suspect, précise le sergent Lévesque. Rappelons qu'Anne-Sophie Provencher s'était fait voler son vélo le 4 juin à la résidence de la rue des Haies dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. La jeune femme se déplace en fauteuil roulant et ce vélo avait été adapté spécialement pour elle. C'est sa belle-mère, André Lamy, qui avait dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. Elle avait d'ailleurs confié au Nouvelliste son indignation. « Les voleurs ne peuvent pas du tout l'utiliser, c'est un tricycle. » Il ne peut servir à personne d'autre qu'à elle. Ce qu'on pense, c'est que quelqu'un l'a volé pour les pièces, estimait-elle. Sa publication sur les réseaux sociaux a été largement partagée et c'est un dénouement heureux pour la famille. Nous avons eu plus de 1600 partages sur Facebook. Les gens m'ont envoyé de nombreux messages personnels. Je n'en reviens tout simplement pas de voir qu'il y a autant de bonnes personnes dans la vie, s'exclame Madame Lamy. Pas question de présenter l'autre joue, c'est Gilbert Lavoie dans le soleil. L'abandon du G7 par Donald Trump en l'espace de 2 tweets a été spectaculaire et insultant, mais il n'est guère différent de toutes les autres controverses que ce président a créées depuis son arrivée à la Maison-Blanche. La planète n'arrêtera pas de tourner à cause de lui. Les tractations entre ses négociateurs et ceux du Canada se poursuivront probablement, et Trump continuera de tweeter. Quant aux effets de son retrait du communiqué du G7, il ne porte pas à conséquence parce que le texte n'engageait en rien les États-Unis sur les sujets chers au gouvernement Trudeau. La véritable inquiétude au lendemain de sa sortie de samedi soir porte davantage sur la possibilité qu'il a évoquée d'une nouvelle ronde de tarifs sur l'industrie de l'automobile cette fois. La simple évocation d'une telle menace a semé l'émoi en Ontario, où les emplois de centaines de milliers de travailleurs sont directement liés à cette industrie. Si les Canadiens dans leur ensemble appuient le gouvernement canadien dans sa détermination de tenir la ligne dure sur l'ALENA, le nouveau gouvernement Ford serait très pénalisé par une telle guerre commerciale qui aurait des conséquences désastreuses sur son économie. Dimanche matin, le professeur Yann Simon de l'Université Laval a fait valoir sur les ondes de Radio-Canada qu'il serait très difficile pour Washington d'appliquer des tarifs sur les automobiles assemblées au Canada et au Mexique, en raison de la forte intégration de cette industrie. Une auto construite au Canada, a-t-il expliqué, compte plus de 60 % de composantes en provenance des États-Unis. En d'autres mots, des tarifs sur l'industrie automobile du Canada priveraient également des milliers de travailleurs américains de leur emploi. Que feront les conseillers du président lorsqu'ils constateront la complexité d'un tel scénario? C'est difficile à dire parce que personne n'est en mesure de comprendre et encore moins de prédire ce qui se passe à Washington sous Donald Trump. Une chose qui saute aux yeux, cependant, c'est que les relations « cordiales » entre guillemets que le premier ministre Trudeau croyait pouvoir entretenir avec cet homme, malgré son imprévisibilité, sont définitivement ternies. Anne-Claude Brisson dans le quotidien. Vers un gala de la Camerise, l'idée de reconnaître les jeunes inspirants qui gravitent dans les milieux communautaires et culturels du Saguenay-Lac-Saint-Jean proposée par l'Ordre de la Camerise prend de l'ampleur. Lancé dimanche dernier, le projet continue autant de faire jaser que de grandir. Le projet Facebook, qui met en vedette des portraits régionaux, pourrait même prendre une nouvelle forme d'ici la fin de l'année. À ce point, c'est pas mal certain que nous irions vers un... tout premier gala de la Camerise à l'automne 2018, a confié Max-Antoine Guérin en entretien avec Le Quotidien. Une annonce devrait être faite au courant des prochains jours. D'ici là, la réflexion quant à la structure du projet se poursuit. Des validations seront faites avec des organismes d'ici dont la mission est de mettre en lumière des personnes inspirantes. Par ailleurs, des consultations seront réalisées avec des gens spécialisés en éthique afin de s'assurer de la conformité du projet. Depuis sa création il y a moins de 10 jours, l'initiative régionale ne cesse d'être en pleine ébullition. Avec le recul, j'ai été surpris de l'ampleur des réactions. On reçoit 20 de suggestions par jour, c'est un signe que ça rejoint les gens. De plus, les personnes nommées sont touchées par la reconnaissance de leur milieu immédiat et du réseau élargi, précise celui qui est également associé chez Canopée. Les possibilités sont infinies pour l'Ordre de la Camerise. Max-Antoine Guérin a d'ailleurs bien l'intention de faire de son projet un outil de rayonnement pour la région. Dès son lancement, l'Ordre de la Camerise a rapidement été comparé à l'Ordre du Bleuet. Max-Antoine Guérin confirme que des échanges ont eu lieu au courant des derniers jours avec la membre de l'Ordre du Bleuet et la présidente du comité des candidatures, Christiane Laforge. D'ailleurs, une rencontre est prévue entre les deux organisations mardi afin de discuter de ce qui peut être fait conjointement par les deux ordres. Il y a quelques jours, Mme Laforge avait affirmé au quotidien qu'elle aurait aimé que les membres de l'Ordre de la Camerise tendent la main à son organisation et avait déploré que l'annonce de sa création ait été effectuée le soir du gala de l'Ordre du Bleuet. C'est donc un texte d'Annie-Claude Brisson en collaboration avec une stagiaire qui s'appelle Myriam Arsenault. Vous écoutez Le Quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M, la radio de Vues et Voix, et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment, les actualités culturelles et aussi les sujets libres.
Si ça continue, je me taillerai en ocre. Je mettrai à ma vue que des gens qui m'adorent, que des gens qui me dévorent, que des gens qui m'évoquent un beau moi sans effort. Puis j'inscrirai les rues mortes pour oublier les fûts d'un temps où le dehors, un peu moins m'as-tu vu, n'était qu'un wesh alors, n'était qu'un ouais tu sors, n'était qu'un son de décor. Oh, 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 bétonné d'ordures, moi je rêvais d'ailleurs, je rêvais d'être transfert sur des scènes si pures, ces scènes lueurs azur, pour crier mes peines justes, pour créer mes rênes sûres, et puis parfaire mon allure. J'ai donc conçu un plus grand pour oublier le dur, plus solide que le fainéant qui est en moi et qui lutte, qui est en moi et qui est sûr de soi, bien plus de cran que moi devient un géant tout froid. Je viendrai fou de moi. Continue, je vivrai que pour me plaire, qu'on m'acclame, qu'on me suce, qu'on l'avale tout entière, qu'on me dise tout au plus que je ne suis pas qu'un rêve, que je suis encore plus. Je deviendrai accro de celui qui donne l'air, que tout est bien plus beau quand c'est pas dans ses terres, quand c'est dans les journaux, car ma vie est plus terne en dehors des réseaux. Et de mes vues j'en ferai des changements d'humeur, que je compterai par peur de redevenir inconnu, de retomber dans le plus, où je n'étais pas grand chose, où je n'étais même jamais vu. Alors je jouerai à l'être, même tout le temps balèque, je nourrirai mon ego de cuillères de paresse, jusqu'à en perdre la peau, jusqu'à m'en perdre dedans, jusqu'à faire couler du sang sur les reflets. Je te jure, je deviendrai fou de moi. Oh, fou comme ça. Je t'assure, je deviendrai fou de moi. Car à tous les quarts d'heure, je vérifie mon contenu s'il n'a pas par malheur et un peu par folie perdu toute sa magie, perdu tout son meilleur, perdu tout ce que je suis. J'idolerai l'habit que l'on dit de lumière, car il prendra ma vie et même dans les cratères, je le mettrai quand je crie pour ne jamais voir les plis, ne jamais voir mes guerres, ne jamais voir le gris à en avoir le tournis. Je t'assure, je deviendrai fou de moi. Oh, fou comme ça.
On vient d'entendre Eddie De Pretto et la pièce Ego. Eddie De Pretto qui était en spectacle hier soir dans le cadre des Francofolies au MTLUS. Également en première partie, il y avait Clara Luciani.
Et les critiques sont vraiment enthousiastes par rapport au spectacle d'Eddie De Pretto. Alors, allons-y avec la politique culturelle. C'est dans le devoir d'aujourd'hui. Québec veut améliorer le sort des artistes. Le gouvernement débloquera 600 millions de dollars pour se donner les moyens de ses ambitions. C'est un texte de Jocelyne Richer, La Presse canadienne à Québec. Le gouvernement Couillard veut hisser la culture, éternelle laissée pour compte, au rang des priorités. en misant essentiellement sur deux objectifs, revoir le statut de l'artiste et favoriser de toutes les manières possibles une fréquentation accrue des productions culturelles québécoises. Québec se donnera les moyens de ses ambitions en prévoyant de consacrer quelques 600 millions de dollars supplémentaires au cours des 5 prochaines années pour appliquer sa nouvelle politique culturelle et le plan d'action qui l'accompagne. Très attendu par le milieu, le document de près d'une cinquantaine de pages dont la presse canadienne a obtenu copie sera rendu public mardi en grande pompe à Montréal par la ministre Marie Montpetit et le premier ministre Philippe Couillard devant un parterre de 200 personnes issues du monde culturel. Le document intitulé « Partout la culture » démontre la volonté de Québec de répondre aux attentes du milieu, qui réclamait depuis des années une mise à niveau du statut professionnel des artistes à l'ère du numérique et de leurs conditions de vie, tout en souhaitant un soutien accru de l'État afin de percevoir les revenus auxquels ils ont droit. La ministre Montpetit va donc s'engager à revoir les deux lois existantes sur le statut de l'artiste adoptées en 1987 et en 1988. On visait à l'époque à donner pour la première fois aux artistes un statut juridique sur le plan fiscal et celui des relations de travail. Ils devenaient des travailleurs autonomes mieux armés pour négocier de bons contrats. Mais les organismes du secteur culturel revendiquaient depuis des années que ces lois soient dépoussiérées pour tenir compte notamment de l'évolution des technologies. Par la même occasion, les conditions de vie et de travail des artistes seront aussi revues à la hausse. Québec s'engage à resserrer le filet de protection sociale des créateurs, à faciliter l'accès à un régime de retraite et à des assurances collectives, de même qu'à prévoir des mesures fiscales qui tiennent mieux compte de la réalité professionnelle particulière des artistes et des créateurs. Le gouvernement s'engagera aussi à parfaire ses connaissances des conditions socio-économiques des artistes et des travailleuses et travailleurs culturels afin de mieux répondre à leurs besoins. Le travail artistique et culturel se caractérise souvent par la précarité d'emploi, le cumul de statuts et la combinaison de plusieurs modes de rémunération. Encore aujourd'hui, de nombreux créateurs n'arrivent pas à vivre de leur art, peut-on lire dans le document. Pour remédier à cette situation, on veut par ailleurs miser sur une offre accrue de produits culturels. Dans un contexte de vive concurrence internationale, Québec entend bien élargir l'offre culturelle en stimulant la création. Au total, 169 millions de dollars ont été réservés à cette fin, dont l'essentiel, 100 millions, sera versé aux deux principaux organismes de soutien à la création, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC. Le gouvernement va promettre aussi de se montrer vigilant sur la question des droits d'auteur, prêt à intervenir aux besoins auprès d'Ottawa pour favoriser la juste rémunération des artistes. Par ailleurs, le ministère de la Culture va revoir dans son ensemble la formation offerte aux artistes. On dit vouloir en améliorer la cohérence et l'accessibilité tout en favorisant le perfectionnement continu. La nouvelle politique culturelle, accompagnée d'un plan d'action détaillé comptant une quarantaine de mesures, succédera à celle adoptée en 1992 par la ministre de l'époque, Lisa Froula. Elle ne prévoit pas de changement de cap majeur en matière d'intervention de l'État dans ce secteur d'activité. La ministre Montpetit priorisera 4 grandes orientations : favoriser l'accès à la culture, mieux soutenir les créateurs, dynamiser la culture en région et faire de la culture un outil de développement économique. Dans ces grandes lignes, le cadre financier de la politique culturelle avait été annoncé lors de la présentation du dernier budget LETAO en mars. Le plan d'action rendu public mardi, demain, va décliner dans le détail comment seront réparties les sommes prévues. Point saillant de la politique culturelle. Québec injectera 600 millions supplémentaires dans le secteur culturel au cours des 5 prochaines années. Les deux lois existantes sur le statut de l'artiste seront révisées pour offrir un meilleur filet de protection sociale. Québec veut que les enfants soient mis davantage en contact avec les productions culturelles. 35 millions serviront à augmenter le nombre de sorties culturelles des élèves. Pour stimuler et mieux soutenir la création, le budget combiné consenti au Conseil des arts et des lettres du Québec et à la Société des entreprises culturelles est bonifié de 100 millions sur 5 ans. On réservera plus de 110 millions pour favoriser la culture dans les régions. L'accès aux musées financés par l'État sera gratuit un dimanche par mois, une mesure évaluée à 5 millions en 5 ans, c'est déjà commencé. Le volet numérique de la politique devrait accaparer 116 millions, dont 40 millions destinés aux entreprises culturelles spécialisées dans la production et la diffusion d'œuvres s'appuyant sur du contenu numérique. Plusieurs institutions culturelles auront droit à un coup de pouce additionnel de 42 millions au total dès cette année, dont 3 millions au Musée d'art contemporain de Montréal, 1,5 million au Musée de la civilisation et 1,5 million au Musée national des beaux-arts du Québec. Le volet prévu pour appuyer la culture et le patrimoine en région aura droit à 110 millions, dont 19 millions pour financer l'organisation d'événements. Universelle et éternelle belle-sœur, à l'occasion de ses 50 ans, la pièce culte de Michel Tremblay sera lue en 15 langues. C'est dans la presse, Mario Girard. Une lecture publique, polyphonique, une grande tournée à travers le Québec, un événement populaire qui réclame la participation publique. Tous les moyens sont bons pour souligner le 50e anniversaire de la création de la pièce québécoise la plus jouée dans le monde, Les Belles-sœurs. Avant de faire ses premiers pas sur la scène du Rideau Vert le 28 août 1968, la célèbre pièce de Michel Tremblay a poussé son premier cri le 4 mars de la même année lors d'une lecture publique aujourd'hui légendaire. C'est le Centre des auteurs dramatiques qui a organisé cette lecture dans un minuscule espace situé à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue Papineau. Il abritait à l'époque les apprentis sorciers, les saltimbanques, le mouvement contemporain et le mime Michel Poletti. Il deviendra quelques mois plus tard le théâtre d'aujourd'hui. Près de 90 personnes ont assisté à la naissance de cette œuvre qui fit tourner l'une des plus importantes pages de la Révolution tranquille. 6 mois plus tard, la pièce était créée au Théâtre du Rideau Vert dans une mise en scène d'André Brassard et avec une nouvelle distribution à l'exception de quelques comédiennes, dont deux qui, dès le début, furent des colonnes de ce temple québéco-grec, Denise Proulx et Denise Filiatreault. Pour souligner le 50e anniversaire de l'œuvre de Michel Tremblay, le CEAD présentera une lecture publique qui soulignera son universalité. À ce jour, Les Belles-sœurs a fait l'objet d'une vingtaine de traductions et a été jouée dans une trentaine de pays. C'est pourquoi le CEAD a eu l'idée de présenter une version polyphonique de la pièce. Le 30 août prochain, 15 comédiennes d'origines diverses célébreront la diversité culturelle de Montréal en conférant à chacun des personnages une langue différente. Les spectateurs pourront suivre cette expérience hors du commun, dirigée et imaginée par Alexia Berger et Alexandre Cadieux grâce à des surtitres en joual. Cet événement spécial viendra clôturer la 10e édition des lectures publiques dramaturgie en dialogue produite par le CEAD, le Centre des arts, j'y reviendrai. Du 23 au 30 août, le public est convié à découvrir 7 œuvres théâtrales d'auteurs d'ici et 3 autres de la Finlande. Les billets pour ces créations et la version polyphonique des Belles-sœurs sont mis en vente aujourd'hui. Alors le CEAD, c'est le Centre des auteurs dramatiques.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudrait prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bleuets. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Thank you. y avoir de l'eau dedans mon vin. Y vas-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Et des fois je me dis que je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout pis toutes les autres y ont rien. Change-moi ça.
Philippe B qui reprenait « Il va toujours y avoir », une des pièces classiques de la formation Abitibi, une composition de Richard Desjardins, popularisée entre autres par M. Richard Desjardins lui-même.
Sujet libre, exclusif à la presse, politique, Paradis se dit victime d'une vendetta. Après 18 mois, le député de Brome-Missisquoi rompt le silence. C'est Denis Lessard qui signe l'article. Bedford, inconduite sexuelle, indemnité de résidence, retour du monopole de l'UPA. Les tuiles se sont accumulées depuis 18 mois sur la tête du député de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis. Sans compter celle qui l'a frappé littéralement et a causé une commotion cérébrale qui l'a laissé de toute évidence diminuer. Après 18 mois de cauchemar, l'ancien ministre libéral plaide son innocence. Il a rencontré la presse pendant quelques heures hier dans sa somptueuse résidence de Bedford. Il paraît évident qu'en dépit de ce qu'il souhaitait, il ne pourra se rendre à l'Assemblée nationale à temps pour prendre la parole avant la fin de la législature vendredi. Il est tout aussi évident, bien qu'il laisse ici planer un doute, qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux prochaines élections générales. La politique est un sport extrême. Tu donnes des coups, tu t'attends à en recevoir, observe le député Paradis. L'homme est diminué, il a perdu un peu de poids, il est un peu plus voûté. Sa voix n'a plus l'assurance goguenarde de l'avocat cultivateur qui était arrivé en politique il y a 37 ans comme défenseur des producteurs de porc. L'entrevue se déroule dans une pièce au volet tiré. Il supporte mal la lumière vive et passe ses journées avec des verres fumés. D'entrée de jeu, il prévient que sa mémoire est parfois défaillante et l'espace d'un instant, il fermera les yeux, silencieux, semblant en proie à la douleur. Il ne conduit plus depuis 18 mois. La dernière année aura été une course à obstacles pour Pierre Paradis. Janvier 2017, il a été démis de ses fonctions de ministre et expulsé du caucus libéral le temps que la Sûreté du Québec enquête sur des allégations d'inconduite sexuelle formulées par son ancienne chef de cabinet, Valérie Roy. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé qu'aucune accusation ne serait portée. Au même moment, sa capacité de réagir était diminuée. Il a subi une commotion cérébrale, la cinquième à vie pour cet adepte de l'équitation. La semaine dernière, il faisait à nouveau la manchette. Son ex-chef de cabinet était allé porter plainte à l'unité permanente anticorruption pour usage frauduleux de fonds publics. Constatant que la conduite d'un député en ces matières n'était pas de son ressort, la police a envoyé l'enquête sur le bureau de la nouvelle commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, maître Ariane Mignolet, a publié un rapport accablant la semaine dernière, affirmant qu'à partir de son allocation de résidence, le député Paradis avait illégalement favorisé sa fille et son gendre. Cette semaine, les députés devront voter sur une résolution invitant l'élu de Brome-Missisquoi à rembourser 24 400 $, un vote où plusieurs abstentions sont à prévoir. À la radio, l'ex-directrice du Devoir, Lise Bissonnette, s'est dite troublée par le rapport et a parlé d'une enquête opiniâtre et acharnée, d'un procès kafkaïen, au ton vengeur qui a des odeurs de règlement de compte. Abandonné, humilié et trahi par Couillard. Pour Pierre Paradis, la Cerbère de l'Assemblée nationale lui fait un mauvais procès. Elle aurait dû d'abord se récuser puisque l'accusation vient d'une de ses anciennes employées à l'Assemblée nationale. Elle était secrétaire de commission avant de diriger le cabinet du ministre de l'Agriculture. Il voit même dans ses mésaventures la main de l'Union des producteurs agricoles, UPA, juste avant la plainte à la police. il avait fait adopter une réforme contestée par l'UPA. Les agriculteurs n'avaient plus besoin de faire partie du syndicat pour avoir droit au remboursement de taxes foncières. On lui aura fait payer cher sa détermination. Avant même que ses déboires soient connus, l'UPA connaissait la dénonciation de sa chef de cabinet, soutient-il. Curieusement, Philippe Couillard avait publiquement appuyé la mesure avant que Québec ne vire à 180 degrés, avant même de recevoir le rapport d'experts commandés. Comme les agriculteurs, Pierre Paradis s'est senti abandonné, humilié, trahi par Philippe Couillard. Tous les députés dont la circonscription est en dehors de la région de Québec ont droit à une allocation de logement. Indexée, elle atteint maintenant 1 500 par mois. Une seule disposition l'encadre, qui relève du bureau de l'Assemblée nationale, le BAN. Ces députés ont droit au remboursement de leurs frais de logement, que ce soit la location d'une chambre d'hôtel ou du loyer d'un logement. La location peut être utilisée pour acheter un condominium, qu'il soit propriété du député ou de sa conjointe, indique-t-on. Lors de la revente, le député empoche la valeur du condo et le gain de capital. De son élection en 1980 à 2002, Pierre Paradis vivait à l'hôtel. De 2002 à 2009, il louait un appartement près du Parlement et vivait avec sa fille, alors étudiante. De 2009 à 2012, il louait dans la rue Aberdeen, tout près du Parlement, un appartement où vivaient aussi sa fille Hélène et son conjoint. De mai 2012 à décembre 2015, cette allocation servait à payer un loyer à ce couple qui a acheté un condo rue de Bienville, encore là, tout près du Parlement. Quand le couple a acheté une maison en banlieue en décembre 2015, Paradis a recommencé à vivre à l'hôtel jusqu'au début de 2017. À ce moment, en convalescence à la maison, il ne réclamait plus d'allocation de logement. « Si j'avais voulu, en 38 ans, j'aurais pu m'acheter 3 condos, tous payés par l'allocation de logement », lancera Paradis, qui insiste. Ces choix de vie n'auront pas coûté un sou de plus au fonds public. La pratique est bien connue et acceptée. Un député actuel a déjà payé un appartement qu'il loue, tandis qu'il se sert de son allocation pour en payer un deuxième. Une ex-ministre empoche son allocation de logement bien qu'il soit connu qu'elle réside à Québec. Ses enfants y sont inscrits à l'école et son conjoint travaille dans la capitale. Après les élections au bureau du WIP, le babillard sera plein de logements à vendre, tous payés par ses allocations de résidence, observe Pierre Paradis. La commissaire Mignolet souligne que le code de déontologie des députés stipule qu'ils ne doivent pas avantager un de leurs proches. Un député ne pourrait pas embaucher sa conjointe, par exemple. Dans le cadre de sa charge, observe M. Paradis, affirmant que la gestion de sa résidence est une affaire privée. Or, la commissaire est rendue dans les chambres à coucher. Elle a mesuré mon lit. Elle a déploré l'absence de collaboration du député. Il se souvient d'un interrogatoire où il est parti rapidement. Avant de lui arracher la tête, j'ai préféré sacrer mon camp. Le fait d'héberger un enfant aux études est parfaitement accepté. À nulle part, il est dit que la règle change quand l'enfant n'est pas aux études, observe M. Paradis. La commissaire Mignolet s'est même rendue vérifier la grandeur de la chambre dont disposait Pierre Paradis quand il vivait chez sa fille, puis en a fait évaluer la valeur locative par la Ville de Québec. Au bout de 60 pages, la commissaire observe que le code et la directive du banc sur l'allocation devraient être harmonisés. On peut s'interroger sur leur droit de s'approprier la plus-value de ces biens achetés par les fonds publics. Un travail pour la prochaine législature, dis-je bien, soutient-elle, et ça termine ce texte, donc, intitulé « Paradis se dit victime d'une vendetta », signé Denis Lessard. Fin des classes, un cadeau pour remercier son prof, c'est dans la presse. C'est bientôt la fin des classes et de nombreux parents se demandent ce qu'ils pourraient bien offrir aux enseignants de leurs enfants afin de les remercier de leur précieux travail tout au long de l'année. La presse est entretenue avec 3 enseignantes, aussi mères de jeunes enfants, qui nous ont parlé des cadeaux qu'elles ont trouvés pratiques, touchants, inoubliables, et d'autres qu'il n'est pas nécessaire d'offrir. Une simple carte. Je ne pense pas que c'est important d'offrir un cadeau, mais je pense que c'est important d'offrir une carte ou d'envoyer un courriel. On travaille tellement fort avec chaque enfant, on les aime vraiment. La fin de l'année est difficile pour nous. C'est difficile de dire au revoir aux enfants. On les a aimés comme les nôtres. Et recevoir un petit mot qui dit juste merci et au revoir dans une carte ou un courriel, c'est comme si ça bouclait la boucle, explique Lorraine, enseignante à la maternelle dans une école privée à Montréal. Maria Zaznoun, enseignante au primaire dans une école publique à Montréal, a une autre opinion. Ça me met vraiment mal à l'aise de recevoir des cadeaux d'élèves car je travaille dans un milieu très défavorisé. Mais les cadeaux qui m'ont fait le plus plaisir sont des cartes de parents qui m'écrivaient des messages qui provenaient visiblement du cœur. On investit tellement dans ces petites créatures-là que ça fait vraiment du bien de savoir que notre travail est apprécié. Ces cartes-là, je les garde et je les relis de temps à autre. Pour sentir, manger ou lire, une idée bien simple qui fait toujours plaisir. Des fleurs, des plantes, j'aime toujours en recevoir, même si ça ne dure pas, indique Catherine Ponton, enseignante au primaire dans une école publique de la ville de Mont-Royal. Un parent a déjà offert à Lorraine des biscuits dans un joli contenant design. Les biscuits étaient très bons et j'ai beaucoup utilisé le contenant. J'avais tellement aimé l'idée que j'ai offert la même chose aux enseignantes de mes enfants. Offrir un exemplaire du livre préféré de son enfant accompagné de biscuits est aussi une excellente idée. Les parents ne le savent peut-être pas, mais les enseignantes sont toujours à la recherche de livres coup de cœur. Et on ne connaît pas tous les livres, souligne également l'enseignante. Si on ne sait pas quoi offrir, les parents peuvent aussi se cotiser et simplement offrir de l'argent. Une année, le groupe de parents de ma classe s'est mis ensemble et a amassé une grande somme d'argent. Je me suis acheté une bague et que j'ai portée très longtemps. Et que je ne me serais pas offerte à ce moment-là, raconte Catherine Ponton. Un chèque cadeau de groupe est aussi une bonne idée. Pas besoin de courir les magasins ou de dépenser de l'argent. J'aime beaucoup les cadeaux faits par les enfants. Que devrait-on éviter d'offrir? Les cadeaux personnels. Quand on ne connaît pas personnellement l'enseignante et ses goûts, mieux vaut éviter d'offrir des articles de mode. Des produits coûteux, alors qu'elle travaillait dans un milieu plus favorisé, Maria Zaznoun a reçu plusieurs jours avant la fin de l'année scolaire une bouteille de parfum d'une certaine valeur. « J'avais un certain malaise, en ce sens que mes notes n'étaient pas encore rentrées au bulletin. » Chocolat, thé, les enseignantes reçoivent des dizaines de boîtes de chocolat par année. Les sachets de thé, bougies, stylos, tasses figurent aussi parmi les cadeaux les plus offerts. « On les collectionne », lance Catherine Ponton. Alors voilà, c'est vrai, hein, la fin de l'année, ça s'en vient pour plusieurs élèves. Ici Hélène Denis, c'est la fin de l'émission, le quotidien des quotidiens. On se retrouve demain. Merci Jean-Sébastien, la liberté à la mise en onde et au choix musical. À demain!